C'était une sorte d'île située entre la mer et les Tonto.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre recette.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.
Soin le maire, bonjour.
Bonjour.
Avec Racontez-nous votre recette, je vous propose un entretien convivial pour notre plaisir à tous les deux et surtout, nous l'espérons, pour celui des auditeurs de Divergence.
On va essayer.
René-François, vous êtes né à Sète.
Oui.
Mais vous n'avez pas, vous êtes un habitant sétois épisodique, si j'ai bien compris, c'est-à-dire vous êtes parti, vous avez passé votre jeunesse à Sète, puis vous êtes parti pour votre trajectoire professionnelle, mais depuis l'origine, vous avez pris l'habitude de revenir au moins une fois tous les ans dans cette ville, parce que votre grand-maman avait acheté une baraquette, hein, quelque part sur le mont Saint-Clair. Et puis quand votre activité professionnelle s'est arrêtée, bien évidemment, vous avez récupéré ce bout de terrain, une partie en tout cas, pour vous installer à Sète. Mais avant de revenir sur votre connaissance de la ville, je voudrais vous poser une question. Vous vous appelez René François, mais j'ai cru comprendre que vous vous faisiez appeler Renato. Pourquoi ?
Alors, pourquoi ? Parce que tout simplement, ma famille, par ma mère, est d'origine italienne.
D'accord.
Et à ma naissance, ma mère souhaitait m'appeler Renato Francesco, en fait, qui est un prénom italien.
Oui, bien sûr.
Il y a des comédiens, Salvatore, Renato Francesco. Mais comme elle avait beaucoup souffert après-guerre, avant-guerre de 40, après s'être installé à Sète, on traitait les Italiens de macaroni, hein, comme ça. Elle n'a pas voulu que ça rejaillisse sur moi, et donc avec mon père, ils ont décidé de transformer ce prénom italien, que j'adore, Renato Francesco, en René François. Donc mon vrai prénom, c'est René François. Voilà l'histoire, en quelque sorte.
Oui, mais enfin, c'est... René François, si je puis dire, était un prénom par évitement, puisque en fait c'est Renato Francesco.
Oui, c'est Renato Francesco, voilà, c'est traduit.
Ce qui entre nous est bien plus joli que René François.
Oui, mais je suis bien d'accord, je n'ai jamais beaucoup aimé mon prénom.
Donc on vous appelle. Mais c'est. Donc vous faites partie quand même, parce que moi je pensais que ça était quand même plus proche de l'Espagne que de l'Italie. Et à l'origine, moi qui ne connaissais rien à la ville, je pensais que c'était surtout des Espagnols qui étaient à Sète, et c'est pas vrai, ce sont des Italiens.
Ah, il y a beaucoup d'Italiens, et puis vous savez que le plat principal qu'on revendique à Sète, c'est la tielle.
Oui.
Et la tielle, ça vient d'Italie, ça vient des pêcheurs de Gaète, parce qu'à Gaète, beaucoup de pêcheurs sont venus après s'installer sur Sète, parce que ça ressemblait un peu à leur ville là-bas. Et donc, il y a une grosse colonie d'Italiens, grosse colonie d'Espagnols, c'est certain, mais aussi grosse colonie d'Italiens implantés.
Mais la macaronade aussi, c'est un peu italien, non ?
C'est un peu... C'est jouteur, la macaronade, on va dire.
C'est
copieux. Quoi.
C'est juteux et jouteur.
Oui. Alors, il faut préciser pour les personnes qui ne sont pas de Sète, la macaronade, ce n'est pas des macarons. Souvent, on me dit, ah, mais la macaronade, ah bon, c'est des macarons, c'est bon. Non, ce n'est pas du tout des macarons. La macaronade, c'est un plat de pâte dans lequel on trouve avec une sauce tomate qui est faite au vin rouge et avec de la macreuse de bœuf, des brajoles qui sont des petits roulés de vin. Et en complément, il y a aussi des saucisses. Et des petites côtelettes de porc, des croustillous, comme on appelle ici.
Oui.
Donc c'est assez copieux. Quand vous avez mangé ça, vous pouvez monter sur la tintaine, c'est sûr.
Et c'est assez... Moi, je trouve que c'est un plat qui est assez goûteux, qui est assez
c'est
bon.
Bon.
Hein. C'est un ragoût, en fait.
Oui, absolument. Hein.
C'est un ragoût à la sauce italienne, parce qu'il y a de la sauce tomate...
Et les pâtes.
Et des pâtes, voilà. Donc, expliquez-moi un petit peu, racontez-moi comment vous avez fait, comment vous avez vécu cette existence sétoise épisodique.
Moi, ça a été extraordinaire. C'est-à-dire que j'y suis né, donc, à Sète, et tout de suite, j'ai passé les 5-6 premières années de ma vie chez ma grand-mère, qui habitait au pont de la Savonnerie, qui habitait rue Savonnerie, pour être très précis. Pour l'anecdote, c'est la rue où est née Manitas de Plata. Il y a une plaque, il y a une plaque sur un des murs, juste
à
en face.
À côté du conservatoire.
Ah, pas du, non, pas du tout. Le conservatoire, il s'appelait le conservatoire Manitas de Plata. Mais moi, je parle de la rue où j'habitais. C'est au pont de la Savonnerie. C'est en plein centre de Sète. C'est la rue qui descend du collège Paul Valéry, qui est
oui,
juste
je
en
vois.
Face. Là.
Oui.
Le pont de la Savonnerie, la rue de la Savonnerie. Et en face de chez moi, au 10, j'habitais. Oui, j'ai rien à cacher. Et Manitas de Plata, il y a une plaque ici. Est née Manitas de Plata.
Ah, bon, ça, mais moi, excusez-moi, j'avais cru comprendre que Manitas de Plata était né dans une roulotte à côté de l'endroit où il y a maintenant le conservatoire qui porte son nom.
Oui, c'est un peu ça, mais surtout... Tout, il a vécu dans cette maison qui était juste en face. Il est né, après il est parti dans la roulotte, mais après il est revenu à 7 quand il était...
Donc vous habitiez près de votre grand-mère, c'est ça, habité?
Oui, tout à fait. Et une de ses filles qui avait perdu son mari à la guerre. Et là, c'était formidable. J'ai moins de souvenirs parce que j'avais 5-6 ans, mais j'allais au... Le lycée Paul Valéry s'appelait encore le collège Paul Valéry.
D'accord.
Et s'arrêtait à la 3e. Bon, maintenant,
ouais,
il va
ça,
beaucoup plus loin
ça.
Que ça, bien évidemment. Et puis après, selon les déplacements de mon père, il m'est arrivé de revenir, par exemple, passer un an à 7 chez ma grand-mère. Et je retournais au collège
D'accord.
Paul Valéry pour poursuivre. Je
D'accord.
à peu près arrêté de venir à l'école à 7, à partir de la 3e, quoi, globalement.
Et
alors, pendant tout ce temps-là, j'ai passé toutes mes vacances, pour le moins, alors les premières années en totalité, et après, toutes les vacances, on va dire Noël à l'époque, Pâques, qui était assez long, et surtout les grandes vacances, où les grandes vacances, les lycées étaient réquisitionnés pour le bac, donc à partir du 15-20 novembre, du 15-20 juin, on était disponible, et on rentrait à l'époque vers le 19 septembre.
Oui.
Donc ça faisait... Et là, moi, j'étais à 7 pendant toute cette période-là. Quoi,
ah, mais c'est merveilleux. Alors, en fait, si je comprends bien, 7 est lié pour vous avec un temps merveilleux, qui est celui de la vacance.
Ah, c'était le temps des vacances. On arrivait le 20 juin, on mettait le maillot de bain, et globalement, on ne se préoccupait pas du temps, parce que cette époque-là, voilà, c'était comme ça. On savait qu'il faisait beau, et
oui.
on quittait le maillot de bain le 15 septembre. Quoi.
Ah, c'est merveilleux. Vous avez été un jeune homme, un enfant, un jeune homme gâté. De
ce ah oui, c'était extraordinaire. Et c'était extraordinaire. Il faut imaginer, la baraquette de ma grand-mère, c'était des moellons avec un toit en tôle ondulée, qui serait interdit maintenant, c'est même des matières interdites, un toit en tôle ondulée, on va dire, avec une terrasse, une toute petite cuisine, deux chambres. Il y avait pas l'eau courante, il y a eu l'eau assez rapidement, mais c'était épisodique. Il y avait pas tout de suite l'électricité. On mettait des grandes bassines pour qu'on puisse prendre un bain dedans, enfin que les enfants puissent se baigner dedans, rincer le sable. Et surtout, cette baraquette, quand ils l'ont achetée, la baraquette a couché... Il faut s'imaginer que ce terrain est face à la corniche,
ouais.
au-dessus de la corniche, et la baraquette a coûté plus cher que le terrain. C'était
D'accord.
dans les années 30. D'accord.
Bigre de bigre.
Maintenant, voilà,
oui, personne ne pouvait savoir à l'époque.
Absolument.
Ouais.
Personne ne pouvait savoir. Et ma grand-mère a eu le chou, si je puis dire, d'en acheter 4000 mètres carrés.
Aïe.
Ouais, formidable. Tout en long. Enfin, c'est extraordinaire. Et donc, il faut imaginer ce terrain qui est sur Saint-Clair. Il faut imaginer que sur Saint-Clair, pour les gens qui connaissent maintenant, il n'y avait pas d'arbres. Il n'y avait rien.
Ah.
C'était un mont pelé. Il y avait des murs en pierre sèche. Qui sont d'ailleurs classés maintenant, tous
D'accord.
ces murs. Et il n'y avait pas d'arbres.
Il y avait des animaux, des moutons des...
Alors, non, il n'y avait pas d'animaux, pas de moutons à ma connaissance, mais il y avait des chasseurs.
Ah, d'accord.
À l'automne,
oui.
un de mes cousins qui avait une baraquette en face, il partait à la chasse aux pierres blanches, le coin qu'on
appelle les pierres blanches.
Il chassait avec son chien là-bas. Enfin, il
d'accord.
était pas tout seul d'ailleurs, c'était autorisé. Hein.
Ouais.
Donc il n'y avait pas de problème. Et nous, c'était formidable parce qu'on courait sur les murs. On pouvait monter à Saint-Clair, tout en haut de la colline, en marchant sur les murs.
D'accord.
Et il faut s'imaginer qu'à l'époque, les gens qui avaient des encombrants, comme on appellerait maintenant,
ouais.
une vieille machine à coudre, un vieux vélo, un vieux machin, ils balançaient sur les murs.
Ah, bigre.
Et nous, c'était...
oui, j'ai compris.
La chasse au trésor.
Ah ben voilà, c'était des trésors merveilleux pour des enfants.
Absolument.
Et pourquoi il y avait des murs sur le Mont Saint-Clair ?
Parce qu'il y avait déjà quelques baraquettes qui avaient commencé à s'installer.
D'accord. C'était pas des murs... comment dire, pour délimiter des parcelles, ou c'était des murs pour éviter que ça s'effondre ou...
Non, c'était des murs pour délimiter, commencer à délimiter les parcelles.
D'accord.
Oui, tout à
d'accord.
fait. Oui.
Ouais. Et personne n'imaginait que ce Mont-Saint-Clair allait devenir un endroit résidentiel absolument huppé.
Alors, le Mont-Saint-Clair, à cette époque-là, il était essentiellement occupé par des employés, des ouvriers, etc., des pêcheurs simples, hein, pas des bateaux de pêche, des pêcheurs professionnels, mais à barque, des gens qui n'avaient pas énormément d'argent, et qui se sont refusés pendant des années à faire installer et l'eau et l'électricité. Parce qu'ils se sont dit, le jour où il y aura l'eau et l'électricité sur Saint-Clair, on perdra tout ça et les gens vont vouloir acheter, etc.
Mais
etc.
Oui, ils n'étaient pas idiots.
Ils étaient loin d'être idiots.
Et alors, ça s'est fait quand même, finalement.
Et là, s'il y a eu l'eau, l'électricité, le gaz, le gaz de ville, hein, qu'on a là-haut, et ça s'est fait, effectivement, maintenant, c'est devenu un des coins qui est non seulement très attractif, mais très recherché.
D'accord. Bon, bah, écoutez, je vais vous poser une petite question, enfin une batterie de questions, puis on reviendra sur l'histoire de Sète, si vous voulez bien, après, à laquelle je vais vous demander de répondre en réfléchissant le moins longtemps. Si Sète était un animal, ça serait quoi pour vous ?
Ah ben, ça serait un poulpe, évidemment.
Un poulpe, évidemment.
Ou un dauphin.
Voilà. Et si c'était une plante ?
Si c'était une plante, ça serait la vigne vierge.
La vigne vierge. Et si c'était un monument ?
Si c'était un monument, un parking pourri au centre-ville.
Qu'est-ce que c'est qu'un parking pourri au centre-ville ?
Oh ben, on en parlera une autre fois.
Bon, on va revenir là-dessus.
On va politiser le débat.
Alors, et maintenant, je vais vous poser... Et si c'était une musique, une chanson ?
Ah, si c'était une musique, ça serait la musique des joutes.
Mais alors, c'est quoi la musique des joutes ?
Ah, la musique des joutes, c'est...
D'accord. Donc, on va demander à Tom s'il trouve la musique des joutes. Et c'est quoi ? Des joutes, c'est un truc particulièrement... C'est toi ?
Ah oui, c'est jouer au hautbois, à petit hautbois et au tambourin, au tambour.
Au tambourin.
Voilà, au tambour, un petit tambour comme ça.
Ouais.
Et qui est embarqué avec les joutes. Il y en a un sur chaque barque, la barque rouge et la barque bleue. Et c'est censé encourager les jouteurs.
D'accord. Et c'est, si j'ai bien compris, c'est une. Comment dirais-je, c'est une manifestation régulière qui est particulièrement importante à Sète.
C'est fondamental. C'est vraiment le sport. Oui, les joutes, c'est vraiment quelque chose de très, très, très important pour les Sétois, nés natifs surtout. Ça se déroule en général fin juin pour la Saint-Pierre, un peu, parce qu'elle a fait des patrons pêcheurs, jusqu'à fin août.
On va écouter 2 minutes.
Avec plaisir.
Donc, vous me disiez que cette musique magnifique, dont on vient entendre un petit extrait, c'est essentiel à la vie sétoise.
Ah ben, tous les Sétois la connaissent, et donc c'est vraiment c'est très suivi, et maintenant ça attire du monde de l'extérieur, en particulier les grandes joutes de la Saint-Louis, parce que le vainqueur de la Saint-Louis, c'est le patron pour un an, quoi. C'est le jouteur.
Et le patron de quoi ?
Le jouteur qui a gagné, c'est le qui a gagné la Saint-Louis, qui fait ce combat avec des joutes en nocturne en plus.
Oui.
C'est vraiment un personnage très respectable et très respecté sur
très respecté.
Pendant un an, quoi. Le temps qu'il a gagné la Saint-Louis.
Il est roi de la ville.
Oui.
Alors dites-moi, Renato, ça m'intéresse beaucoup parce que vous avez l'air de... Et puis c'est pas simplement un air, vous, de bien connaître Sète. Racontez-moi un peu comment c'était Sète avant.
Ah ben Sète avant, c'était... l'été, c'était essentiellement la plage. Hein. On allait à la plage. La circulation Oh, je pourrais avoir des anecdotes sur la circulation, mais la circulation en centre-ville, on se garait comme on pouvait, tout le long du quai. Enfin, c'était pas du tout. Vous trouverez sûrement des images sur la toile hein, de Sète dans les années 60, quoi, mais c'est très difficile à décrire. Mais c'était beaucoup plus simple, par exemple, à côté de la criée, qui est une criée simple, c'est pas la criée électronique comme il y a maintenant, à côté de la criée, il y avait un marché aux poissons, tous les soirs, qui ouvrait à 17h quand les pêcheurs arrivaient, les pâteaux pêcheurs, là, arrivaient, et on pouvait acheter du poisson frais, on était sûr qu'il était frais, parce qu'il sortait des bateaux, il n'y a plus ça, ça a été supprimé, etc. etc. Et puis, à la plage, on se garait tout le long, la route suivait la plage, et on garait les voitures... à Bistadenas, comme on dit ici, c'est-à-dire un peu n'importe comment, voilà, c'était sympa. Et il y avait, alors il y avait sur la plage, et c'est ça qui était sympa, il y avait des paillotes qui étaient ouvertes à l'année.
D'accord.
Et de mémoire, je vais vous rafraîchir la mémoire pour ceux qui connaissent bien, il y avait les bains de mer, qui étaient le premier après le lazaret, c'était un truc qu'on pouvait manger aussi, déjeuner et dîner. Il y avait le corsaire, alors le corsaire c'était magnifique parce qu'à l'âge de 16-17 ans, on est tous passés au corsaire parce qu'il faisait boîte de nuit le soir sur la plage, enfin, c'était quand même formidable.
Ah, c'était merveilleux.
Il faisait restaurant et boîte de nuit, mais c'était restaurant pas cher du tout, hein. À côté, il y avait la coupole, à côté, il y avait le spot. Et enfin, il y avait un bistrot qui s'est appelé Kalinka. Mais moi, je vous garantis qu'avant de s'appeler Kalinka, ce bistrot, il s'appelait Chez Charlie. Et Chez Charlie, c'était un personnage absolument extraordinaire.
D'accord.
Et quand il y avait des émissions de télévision à 7, la télévision faisait toujours un reportage sur Charlie,
Chez Charlie.
Plus que sur Brassens.
Ah oui,
parce que tous les comédiens qui passaient à l'époque au Théâtre de la Mer, il y avait aussi des pièces de théâtre au Théâtre de la Mer, il n'y avait pas des concerts comme il y a maintenant, ils venaient chez Charlie. Et ça rendait folle de rage ma mère, qui trouvait quand même Charlie, c'était un personnage un peu spécial qui ne méritait pas d'avoir les honneurs de la télévision.
C'est marrant ce que vous dites, parce que ça me fait penser à ma propre adolescence, hein, puisque j'étais adolescent aussi dans une station balnéaire à côté de Royan. Et j'ai les mêmes souvenirs, c'est-à-dire il y avait un dancing qui était au-dessus de la plage et on terminait sur la plage. Et le soir, il y avait des policiers, des flics avec leurs motos qui balayaient la plage avec les phares. Parce que c'était absolument interdit de dormir. Alors, on se faisait des petites montagnes de sable et on se planquait derrière. C'était une belle époque. Mais alors, dites-moi, Renato, vous avez donc vécu année par année l'évolution de Sète. Comment ça s'est passé pour que ça devienne aujourd'hui la ville que ça est ?
Grâce au ciel, il y a beaucoup de quartiers qui ont été préservés. Les gens se sont entichés beaucoup du Mont-Saint-Clair, donc les prix sont montés, mais c'est même assez vertigineux, je sais pas, c'est à mon sens un peu même dangereux, on est hors cote, des comédiens avec l'arrivée de ces feuilletons là, qui sont le soir, personnellement j'en ai vu, pour te dire la vérité, j'en ai vu une fois, j'ai regardé 5-10 minutes et j'ai dit, mon Dieu, mais quelle horreur avec des plans de coupe sur l'église Saint-Louis. Enfin, c'est pathétique, mais bon, si les gens aiment ça, après tout. Et surtout, donc, il y a eu ça. Et puis, il a fallu construire pour accueillir des estivants de plus en plus, qui venaient de plus en plus nombreux, de plus en plus longtemps.
Donc, si...
les 35 heures.
Donc, si je comprends bien, ce qui s'est passé, c'est que l'évolution a été vers le côté station balnéaire touristique.
Tout à fait.
Au détriment, si j'ai bien compris toujours, de ce qu'était la ville de Sète, c'est-à-dire un grand port, le deuxième port sur la Méditerranée, et un port de pêche.
Alors, c'était un des premiers ports de pêche de Méditerranée, Sète. C'était un des premiers ports de commerce de Sète, parce qu'il y avait énormément de pinardiers qui venaient, le vin algérien, etc., pour remplir les cuves et les compléments des vins de la région, c'est-à-dire la qualité des vins de la région.
Y compris du bordelais, d'ailleurs, par parenthèse, mais ça, c'est une autre histoire.
Oui, c'est une autre histoire. Et donc, le jour où le commerce s'est arrêté, le commerce des bateaux, les pêcheurs aussi, ça, c'est devenu compliqué. Pour vous imaginer, il y avait 47 familles qui vivaient de la pêche à Sète, 47 familles. Quand on dit famille, c'est pas le père, la mère et les enfants, non, c'est le père, la mère et les cousins et les tontons.
Et les tontons. Ce qu'on appelle la famille au sens méditerranéen du terme.
Absolument. Aujourd'hui, ils doivent être 15.
Ah, d'accord.
Voilà. Et 15 uniquement recroquevillés sur leur famille.
Parce qu'il y avait la pêche et il y avait le port.
Et il y avait le port, justement, le port de commerce. Oui, absolument, tout à fait. Et ma tante, pour ceux qui connaissent aussi, travaillait chez ce qu'on appelait chez Suquet. Suquet, c'était un armateur à Sète. Qui faisait du commerce et qui gérait des bateaux. Il n'était pas armateur, mais il gérait des bateaux, lui, particulièrement. Et il y avait une compagnie qui m'a toujours fait rêver, qui était ici. La compagnie, elle s'appelait Charles Le Borgne. C'est extraordinaire.
Compagnie de bateaux.
Ah oui, c'est magnifique. On sentait le corsaire derrière.
Oui, c'est ça. On pense au capitaine Haddock.
Oui, absolument, exactement.
Oui, mais c'est étrange parce que moi, ce qui m'a frappé à Sète en arrivant, c'est bien évidemment les canaux. Et en particulier dans le centre-ville, c'est quand même rare d'avoir une ville avec accosté devant soi de gros bateaux. Et pas simplement de... Enfin, la plaisance, c'est pas très visible à Sète, dans la ville. Et c'est pareil le long des canaux avec les ponts. C'est des petites, je dis ça sans mépris, hein, mais c'est des petites barcasses, en fait, c'est des petits bateaux. Et ça, c'est quand même étrange comme panorama. C'est rare d'avoir une ville qui est autant pénétrée par la mer et de l'autre côté par l'étang.
Oui, par rapport à la Bretagne, à Sète, on ne peut pas dire qu'il y a des voileux. Ce n'est pas du tout injuriant, non. C'est comme ça qu'on appelle les gens qui aiment la voile en Bretagne. Il n'y a pas beaucoup de voileux, il y a des gens qui ont des bateaux. Mais il n'y a pas grand-chose à faire avec un bateau ici. Quand vous avez un bateau à moteur, on peut faire de la pêche. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Il y a deux criques quand on arrive sur Sète par la plage.
Ouais.
Mais après, il n'y a pas d'île en face. Non. Donc qu'est-ce qu'on fait? On prend le bateau, on va à Marseille, on mange une glace, on revient.
Voilà,
enfin,
il y a l'étang, c'est tout.
Il y a l'étang aussi, assez sympa. Mais enfin bon, quand on l'a fait trois fois.
Oui, c'est vrai.
Et puis il y a la grande balade de dimanche pour ceux qui ont des bateaux, c'est les grillades au Brise-Lames. Enfin bon, après, ça devient comme à Paris, au Brise-Lames, on ne trouve plus de place maintenant. Dimanche, quand il fait beau, parce que tous les gens vont faire des grillades au Brise-Lames. Enfin,
avec leur bateau.
Oui, alors, ils ont un bateau, ils traversent.
Ce que vous appelez le Brise-Lames, c'est ce qui protège l'entrée du port.
C'est exactement ça, son nom l'indique, ouais, absolument.
Voilà. Et donc, progressivement, si je comprends toujours bien ce que vous nous dites, Sète est... développer son côté touristique.
Oui. Pendant des années, toutes ces années dont je parle, les années 60-80, Sète a toujours hésité entre se chercher, en quelque sorte, entre justement la pêche, le commerce et la plage.
Ouais.
Et a souvent privilégié le commerce et le commerce, le port de commerce et la pêche. Au détriment de la plage. Ce qui fait que pendant des années, pour vous donner une idée, pendant des années ici et encore maintenant, il y a des magasins qui ferment à midi et qui rouvrent à 2h. J'ai un ami, c'est toi, qui ouvrait son magasin, lui, il fermait à midi, mais pas midi 2, à midi, et il rouvrait à 15h30.
D'accord.
Donc ça vous donne une idée. Et quand vous arriviez, et j'ai vécu ça, vous arriviez à un magasin pour acheter une paire de chaussures à midi, on disait non, repassez tout à l'heure, on est fermé.
Voilà.
C'est extraordinaire, il n'y avait pas vraiment de dynamique commerciale.
D'accord.
Si là, ils ont fait des progrès, beaucoup.
Oui.
Mais enfin bon, c'est comme ça, on s'est cherché, et là maintenant, il y a les estivants, ça, il faut reconnaître. Quant aux bateaux, juste un mot sur les bateaux, ça me rend hystérique, quoi.
Oui.
Parce qu'un jour, au printemps, vous pouvez voir des bateaux qui sont plus hauts que le plus grand des immeubles de Sète.
C'est marrant parce que vous m'avez enlevé la question, parce que j'allais vous poser la question. J'allais dire, et c'est étonnant, ces énormes bateaux qui sont des clapiers sur l'eau. Enfin, je suis désolé de dire ça, je ne comprends même pas comment des gens puissent accepter et qui se déversent à Sète. Hein. Et qui ont des parcours avec... on dirait que c'est... Je ne sais pas, les commerçants ont des contrats avec les lignes touristiques. Sont payés pour faire escale à Sète ou c'est...
Mais vous avez des lignes qui partent de Gênes, qui partent de Barcelone, etc., qui viennent sur Sète. Et au pied du bateau, quand il arrive, il y a des autobus parce que les gens ne viennent pas dans Sète.
Oui, oui,
et on les emmène à Carcassonne, on les emmène à Nîmes, on les emène à Arles, à Montpellier.
Ah, mais oui, etc. Parce que c'est le seul port qui peut desservir la côte.
Mais on ne fait pas visiter Sète.
Ah oui, c'est marrant parce que il y a entre Sète et Frontignan un endroit où on vend du vin et des fois il y a des bus qui amènent des touristes pour acheter là.
Ouais, voilà. Frontignan.
Donc ça s'est développé doucement et maintenant il paraît que l'été c'est infernal.
Allez, l'été, c'est totalement infernal. Et puis surtout, la mairie s'était engagée à ne recevoir que des bateaux électriques, enfin, qui arrivent dans les ports de façon électrique, après en mer, etc. Et souvent, ils viennent dégazer au-dessus de la ville. Hein. On le voit avec des fumées noirâtres, enfin, pas possible. Quoi.
Alors, je vais essayer d'être un petit peu plus intrusif. Dites, parlez-moi de votre set amoureux. Je ne parle pas avec la ville, je ne parle pas d'autre chose. C'est quoi le set amoureux pour vous? Qu'est-ce que vous aimez dans cette ville?
À moi, d'abord, j'ai plein d'amis, évidemment. Malheureusement, à l'âge que j'ai, ben, y en a qui commencent à disparaître, mais j'ai plein d'amis. J'ai toute ma famille, j'ai des grands-parents de ma famille avec qui j'ai été élevé, avec qui mes cousins ont couru encore sur les murs. Ils sont tous là avec leurs enfants
autour,
quoi. Et vraiment, pourquoi on se voit souvent? C'est parce qu'ils habitent en face.
Ouais.
C'est-à-dire que le frère de ma grand-mère a commencé, lui, à acheter un terrain. Et ma grand-mère a dit, ah ben ça, c'est une bonne idée. Et c'est là qu'elle a acheté son terrain à elle. Quoi. Donc, on est la porte en face.
Ouais,
vraiment, donc on se voit
très souvent. Donc, vous avez fait famille, comme vous en parliez tout à l'heure, quand vous disiez, il y avait 47 familles. C'est-à-dire, non seulement vous êtes deux Sète, mais votre grande famille est aussi de la ville.
Ah, c'est clair, j'ai plus personne, à part une cousine à Dole, mais c'est tout, j'ai personne d'autre.
C'est rare, ça.
Ouais.
Bon, et à part la famille, alors, qu'est-ce que vous aimez dans votre ville ou...
Mais ce que j'aime dans ma ville, c'est tous les coins qu'on appelle les Pierres Blanches, qu'on appelle le Saint-Clair, les canaux, l'étang, la plage, la mer, etc., etc. Je veux dire, c'est un tout.
Si vous êtes un peu triste, hein, ça doit vous arriver, vous allez où? Pour vous remonter le moral.
Oh ben, je vais voir le parking, hein.
Ah, vous avez un certain humour.
Oui, voilà. Non, mais je vais dans les jardins Simone Veil. Je suis chez moi. J'ai énormément de chance. Je me mets devant chez moi et je regarde la mer. Quoi.
Ouais,
j'ai pas de télévision. Enfin, j'ai une télévision, mais elle n'est pas dans le salon, pas comme la plupart des gens.
Ouais.
Donc, j'ai un écran plat qui me donne le soleil et la mer.
Ouais.
Et vraiment...
D'accord. Et alors, vous avez déjà répondu d'une certaine manière, mais à l'envers. Et quel est l'endroit de la ville que vous aimez pas ou vous la reconnaissez pas?
Ah ben c'est ce qu'on appelle l'entrée de la route de Montpellier, qui vient d'être construite. C'est une vous avez un Lidl qui est là. Vous avez des grands immeubles qui se sont construits derrière. Il faut pour moi, c'est une catastrophe. Enfin, ça n'a pas lieu d'être. Il faut imaginer, parce que les gens aussi ont oublié ça, à la place du port que vous évoquiez tout à l'heure, du port, des bateaux de
plaisance.
Pas de plaisance, comment on appelle, les grands, les énormes.
Oui, le port important, quoi.
Voilà. À l'époque, derrière, la gare Orsetti, ça s'appelle, la gare de bateaux, mais c'est la gare Orsetti, il y avait une plage.
Ah bon?
Il y avait une plage absolument magnifique qu'on appelait la plagette, qui était un sable blanc, fin, superbe. Il y avait un casino qui s'appelait le Cursal aussi sur cette plage-là. Et on a détruit tout ça pour pouvoir accueillir des bateaux plus grands, plus gros, dans les années 60, on va dire.
D'accord.
Et je la connais très bien parce que j'allais... jouer avec ma grand-mère, quand elle habitait le centre-ville et que j'étais seul avec elle, elle m'emmenait là-bas parce que c'était facile d'accès. Quoi.
Bon, Renato, vous êtes un vrai sétois, je pense. Si je vais poser une question un peu stupide, mais enfin, j'ai envie de la poser. Si vous aviez une baguette magique, vous feriez quoi?
Oh, je reviens dans les années 70. Je garde mon âge, hein, c'est pas du tout ça.
Oui,
mais je reviens dans les années 70. Quoi, je veux dire. du temps où il y avait les paillotes sur la plage, etc. Quoi. C'était vraiment l'ambiance... Ouais. C'était une ambiance superbe. Quoi, je veux dire.
C'était une ville qui était un peu un village, au fond.
On se connaissait, connaissait beaucoup de monde.
C'est ça.
Beaucoup de gens me connaissaient, je connaissais beaucoup de monde.
Bon, eh bien, Renato, je vous remercie.
C'est fini.
Ça mériterait presque une deuxième émission. Peut-être, si vous êtes d'accord, je vous réinviterai pour continuer à parler de Sète, parce que vraiment, c'est une ville que vous portez dans votre cœur. En tout cas, je vous remercie beaucoup de m'avoir et de nous avoir accordé aux auditeurs de Divergence un peu de temps pour parler de cette ville singulière. Mon prochain invité sera une invitée, mais je ne dis rien, ça va être une surprise. Vous verrez ça, je vous engage à écouter la prochaine émission. Renato, merci beaucoup et à bientôt.
Merci.
Sète est une sorte d'île située entre la mer et les Tantos.
La commune, qui était une commune portuaire, ouvrière, a pris des couleurs absolument magnifiques.
Parce qu'ici, il n'y a pas que Brassens qui chante. Tous les Sétois chantent.
Et non seulement vous découvrez les œuvres, mais vous découvrez la ville avec son histoire, avec ses quartiers, avec ses habitants.
Témoignage d'un certain art de vivre.
Des amitiés solides, des amitiés fortes.
C'est vraiment un endroit où il faut aller.
Racontez-nous votre set.
On y va ?
Allez.
Allez, on y va.